Radio G 101.5 FM.
Nous sommes le lundi 21 septembre, il est 19h sur le 101.5 de Radio G et c'est l'heure de la case de Seb. Attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Pulsez directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. C'est Seb au micro et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle saison après un break estival bien mérité. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances loin des virus.
Allô Tantin, pourquoi tu tousses ?
Et surtout que vous en avez profité pour avoir de saines lectures. De mon côté, je vous ai concocté une saison 2020-2021 un peu différente de l'habitude, avec quelques changements pratiques. Le premier, c'est que l'émission se déroulera dorénavant une semaine sur deux, ce qui me laissera le temps de préparer et monter l'émission. Parce que oui, dorénavant l'émission ne se déroulera, sauf exception, plus en direct. Je profiterai du calme tout relatif de mon domicile pour enregistrer et enrichir d'extraits chacune des émissions à venir. Cette nouvelle mouture me permettra de vous proposer un contenu plus construit, riche et fun que le direct ne le permettait. Il est probable que je mette plus de musique afin d'aérer un peu l'émission et que vous n'ayez pas à subir simplement ma voix, mais rien n'est figé pour l'instant. Dernier changement, cette année, je serai seul aux manettes de l'émission, mes confrères étant partis vers d'autres horizons. Je les remercie encore pour le travail fourni et les nombreux moments sur les saisons passées. Pour cette première émission de la rentrée, j'ai réalisé une sélection plutôt hétéroclite de mes lectures de vacances. Au menu, Serial Killer, Boule Rose, Scout, Apocalypse, Démon et Course à pied. Alors commençons directement avec une mise en ambiance plutôt violente, avec deux ouvrages issus de la collection Stéphane Bourgoin présente, les Serial Killer.
Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un Serial Killer.
Pardon ?
Quand nous avons affaire à un Serial Killer.
Un quoi ?
Un serial killer.
Hein ?
Un serial killer, un tueur en série.
Ah, serial killer.
Une collection commencée en début d'année avec un album consacré à Michel Fourniret et un autre à Ted Bundy, dont le premier album devait sortir le confinement à peine commencé. Cette collection a eu un démarrage un peu chaotique, mais nous y reviendrons en seconde partie de chronique. Commençons par les albums eux-mêmes. Le sujet étant loin d'être évident à aborder ni plaisant à lire, et je dois vous avouer que j'ai longtemps repoussé cette lecture dont le sujet me rebutait franchement. Alors afin de rendre cette chronique un peu plus légère, nous nommerons donc les deux individus, les deux sinistres individus devrais-je dire, Mich-Mich et Teddy. Les deux albums arborent le même format, la même structure et le même nombre de pages. C'est tout à fait cohérent pour avoir une uniformité de collection. Ce qui attire en premier, c'est la carte à l'intérieur de la couverture qui place les lieux des différentes victimes de Mich-Mich et Teddy. France et Belgique pour le premier et le territoire de l'Oncle Sam pour le second. Un code couleur identifie les rescapés, les décès confirmés et les meurtres possibles. La première partie de l'album est consacrée à un entretien du personnage titre avec Étienne Jailleux, un éminent expert criminologue. Cet entretien, ponctué de différents flashbacks, retrace la monstrueuse carrière de Mich Mich et Teddy. L'échange entre Jailleux et chaque serial killer permet autant que possible de plonger dans l'esprit malsain de l'individu, mais également d'entreapercevoir leurs motivations. Lors de l'entretien, par exemple, Mich Mich se montre plutôt froid, calculateur et sarcastique. Teddy, lui, sera plus enjôleur, joueur, taquin et ironique avec son intervieweur. Des personnalités dont la retranscription correspond avec ce que l'on sait, ce que je connaissais, de ces tristes individus. En tout cas, de l'image qui nous a été faite de ces individus par les biais des médias.
Attention au dessin, s'il vous plaît.
Oui, justement, parlons-en du dessin. L'album consacré à Mich Mich opte pour un dessin plutôt classique, avec des cadrages qui s'orientent du côté documentaire lors des flashbacks et un découpage plus dynamique, j'oserais dire presque western, dans cette façon d'isoler des regards, des gestes, révéler des émotions que ne montrent pas les visages pendant les périodes d'entretien, d'interview. Des émotions qui se font plus rares à mesure que Jailleux pousse Mich Mich dans ses demi-aveux, jusqu'au visage fermé de Fourniret dont même les verres de lunettes ne montreront plus les yeux. L'ouvrage consacré à Teddy est plus incisif, plus dynamique, plus changeant, à l'image du caractère tour à tour enjôleur, puis furieux, séducteur et sadique de Bundy. Grâce à un habile jeu de questions et l'écriture qui en est faite, Jailleux dresse un portrait glaçant d'individus dont la dénomination monstrueuse reste en deçà de la réalité froide des faits. Après cet échange, on trouve une fiche signalétique et synthétique du serial killer, incluant son sinistre palmarès, qui est suivi d'une biographie exhaustive retraçant son mortel parcours. Cette section est l'occasion pour Stéphane Bourgoin d'émettre des hypothèses et théories reliant certaines affaires à chacun des croque-mitaines. Des affaires dont, à l'heure actuelle, nous n'avons aucune certitude, ni aucun coupable. Une section qui nécessite sans doute donc un peu plus de précaution et sera à lire avec une prise de recul importante, voire à compléter par une documentation extérieure pour se faire son propre avis. Une tâche difficile. Alors au final, que dire de ces albums qui sentent le soufre et dont la lecture est loin de laisser indifférente? Il y aura, je pense, deux écoles. Ceux qui considèrent que ces tristes cires doivent sombrer dans l'oubli et que leur consacrer des ouvrages relève de la fascination morbide et malsaine. Et il y aura ceux qui considèrent que parler et documenter les exactions de ces individus permettra au contraire d'identifier des similitudes, des modes opératoires permettant de prévenir et identifier des serial killers potentiels avant le passage à l'acte. Pour ma part, j'y vois un peu des deux, à la fois une mise en lumière des plus abjects individus que la Terre ait pu porter, mais la lueur d'espoir salvatrice que ces crimes ne sont pas restés impunis et qu'il a été possible, autant que faire se peut, de rendre justice aux victimes dont les noms sont oubliés, perdus dans l'ombre d'un surnom sinistre. Qu'on le lise par fascination ou comme moi, par simple documentation, l'exercice n'est pas évident. Les propos et situations sont durs, froides, dramatiques, mais font hélas partie de l'histoire avec un grand H. Je vous conseille donc de les lire dès que vous pourrez, ce sont des livres extrêmement intéressants. En introduction, j'évoquais des relents souffrés liés à la sortie de ces albums. Le premier est le fait que la sortie de l'album était prévue pour le 18 mars, soit un peu moins d'une semaine après que l'État ne nous isole pour une étrange histoire de virus.
Allô, tonton ? Pourquoi tu tousses ?
Mais c'est également début avril qu'une chaîne YouTube va pointer du doigt de nombreuses incohérences dans la biographie de Stéphane Bourgoin. Que ce soit des collaborations inventées avec le FBI, le meurtre de sa compagne, ou même certaines des interviews réalisées auprès de serial killers. Quand ce ne sont pas simplement l'appropriation de récits d'autres enquêteurs. Celui qui fut longuement considéré comme une référence dans le milieu sera alors surnommé ironiquement « serial menteur ». Bourgoin passera finalement aux aveux dans une interview pour le quotidien Le Parisien suite à une enquête menée par Paris Match. C'est surtout une affabulation qui va lui être reprochée, de nombreux points étant obscurs et complètement invérifiables dans sa biographie, et que mes propos ne soient pas mal interprétés, hein, il n'a visiblement tué personne, jusqu'à preuve du contraire. Et au final, Stéphane Bourgoin aura eu autant d'imagination pour sa propre vie que pour celle d'Étienne Jailleux, son alter ego fictionnel qu'on découvre dans les deux albums. En deuxième point, suite à une pétition et de nombreuses accusations, dont celle d'atteinte au droit à l'image par la présidente de l'association Victimes en série, représentée dans l'album sur Michel Fourniret, les éditions Glénat annoncent en août la suspension de la commercialisation de cet album. La suite de la publication de l'ensemble de la collection devrait se poursuivre normalement. Il devrait y avoir une trentaine d'albums au total. Ce sont deux albums dont je vous laisserai faire votre avis. Je redonne les références. Stéphane Bourgoin présente les Serial Killers. Ted Bundy, scénarisé par Jean-David Morvan, dessiné par Cy Tronick et Raphaël Ortiz. Michel Fourniret, scénarisé par Jean-David Morvan, dessiné par Damien Geffroy, Facundo Percio et Arnaud Loquet. Les deux albums sont publiés aux éditions Glénat, mais normalement, l'album sur Michel Fourniret n'est plus disponible à la vente actuellement. On se fait une petite pause musicale. Je vous invite à écouter 30 Seconds to Mars, Up in the Air. On se retrouve dans quelques instants sur le 101.5 de Radio G. We'll be right back.
105 FM.
De retour sur le 101.5 de Radio G. Il est 19h et quelques minutes et vous êtes toujours à l'écoute de la case de Seb. Je vous ai dit que j'aurais du contenu un peu plus dynamique et on va pouvoir faire le point puisque j'ai toujours à ma disposition une jeune lectrice qui aime beaucoup les mangas actuellement et qui a eu envie de me parler d'un manga qu'elle a lu et qui lui a beaucoup plu récemment. Je vous laisse juste imaginer et essayer de deviner quel manga il peut s'agir à l'aide de cette petite musique que les gens de plus de 30 ans vont forcément reconnaître dès les premières notes. La parole à la jeune demoiselle.
Les aventures de Kirby dans les étoiles. Hirokazu Ikawa de Soleil Manga. Kirby, c'est une petite boule rose, pas poilue, un gros glouton qui mange beaucoup et qui s'arrête pas de faire ça. Mais quand même, il y a une. Il a un truc un peu spécial. Quand il avale un ennemi qui a des pouvoirs, ou simplement un ami, il peut au moins le copier. Il peut copier ses pouvoirs. Donc s'il mange une torche, il devient la brûlure. Parle de Kirby qui est avec un compagnon qui s'appelle Chibi. L'on croise le roi Dadidou et son compagnon Poppy et tous les autres compagnons du roi Dadidou. Le roi Dadidou, il a juste volé le bâton étoile de la fontaine des rêves. La fontaine des rêves, on n'en parle peut-être pas dans le jeu vidéo, mais on le voit quand même dans le manga. Et ça se voit chapitre après chapitre, le roi Dadidou est encore plus fâché qu'avant. Kirby vit plein de chapitres où il rencontre le roi Dadidou. Et c'est forcément la cause du roi Dadidou. Oh, c'est très très drôle. On reconnaît bien les personnages par rapport aux jeux vidéo. Et surtout, ce qui est le meilleur là-dedans, c'est que on voit bien les expressions. Oui, comme impressionné, étonné, en colère, peur. C'est ça qui est drôle. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que à chaque fois qu'on a fini les chapitres, on a d'autres histoires. C'est des histoires toutes courtes. Le pays des histoires drôles. T'as Kirby et les contes du monde entier, t'as Kirby médecin, à Kirby coiffeur, mais j'aimerais vous dire le pays des histoires drôles, mais juste un chapitre. C'est Kirby, il est médecin, il y a un patient qui dit j'ai de la fièvre et je n'arrive pas à m'endormir. Alors il avale le quignon et il dit je sais ce que vous avez, c'est une grippe. Et il recrache le clignant. Mais c'est pas vraiment très drôle. Puis il y a un clignant, il vient et il dit j'ai du mal à dormir, j'arrive pas à dormir, je me réveille toujours en sursaut. Prenez ça, vous dormirez super bien. Le soir venu, mais je peux pas manger ça. Et t'as une étiquette avec marqué Naudi. Les Naudi, c'est un petit rond avec un bonnet de nuit. Ça endort les gens qui l'avalent. C'est bizarre, mais c'est drôle. Parce que c'est le pays des histoires drôles. Le moment le plus rigolo, c'est la fin. Mais je veux pas spoiler. Il y a 2 volumes qui sont sortis. Il en manque encore. sais pas combien il en manque, mais il en manque. L'histoire ne se finit pas dans le volume 2. Le vilain roi d'Adidou aura du souci à se faire, mais l'habitant de Dremland aussi, car la propriété absolue de Kirby n'est pas de combattre le mal, mais de se remplir le ventre.
C'était une chronique de ma fille au sujet de Kirby. Je redonne les aventures de Kirby dans les étoiles d'Hirokazu Ikawa aux éditions Soleil Manga. On se fait une petite pause musicale avec la réinterprétation du fabuleux thème Green Greens par G-Music Pocket Band, une version en version jazz de ce thème iconique du jeu vidéo.
Two, one, two, three, ten.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours Seb au micro. On va pouvoir continuer cette chronique et vous parler de Scoot. Laissez-moi à présent vous parler de Black Badge de Matt Kent, Taylor Jenkins et Lilary Jenkins aux éditions Futuropolis. Bon, tout le monde connaît un petit peu les scouts, ces gens qui sont absolument prêts à tout pour vous filer un coup de main, même si vous en avez pas besoin.
Bonjour, madame, monsieur. Je m'appelle Russell et je suis un explorateur de la tribu des Wapiti, section 54, 12e campement. Avez-vous besoin que je vous rende un service aujourd'hui, monsieur ?
Non.
Je peux vous aider à traverser la rue ?
Non.
Je peux vous aider à traverser votre jardin ?
Non.
Alors, je peux vous aider à traverser votre couloir ?
Non.
Mais il faut bien que vous aidez à traverser quelque chose,
non.
Moi !
Quelque chose qui a tendance à un petit peu hérisser le poil. Par-delà ces gentilles moqueries que l'on peut avoir vis-à-vis des scouts, ce sont des groupes de jeunes qui vont être formés aux aptitudes de terrain. Alors, j'ai pas vraiment fouillé, hein, je suis désolé, je suis pas un grand spécialiste des scouts, mais on a ce mouvement créé par Baden Powell qui vise à former des jeunes sur l'entraide, sur les capacités de terrain et tout un tas de talents qui sont symbolisés en règle générale par des badges. Black Badge, eh bien, c'est un des badges les plus recherchés. Encore faut-il le connaître, puisque c'est un badge extrêmement secret. C'est un badge qui n'est décerné qu'à certains scouts qui sont envoyés dans des missions très, très particulières.
Vous voyez ça ? C'est tous les badges que j'ai gagnés dans ma vie d'explorateur. Si vous remarquez bien, il en manque un.
En effet, les Black Badges sont envoyés sur le terrain pour accomplir des missions que même des militaires aguerris n'oseraient pas affronter. Que ce soit aller libérer une personne en plein milieu de la Corée du Nord, ou encore, désigner une cible pour une mission suicide, eh bien, les Black Badges, ils sont capables de faire ça, et comme ce sont des enfants, on va leur pardonner à peu près tout, sous couvert de, bah tiens, ils se sont perdus, les pauvres petits gamins, ils peuvent pas faire de mal.
Je suis scout.
Tu veux dire un vrai scout ?
Ouais.
Alors qu'en fait, ce sont des experts des experts de l'infiltration, des experts de la guérilla et surtout des experts hors normes du combat et de certaines spécialités que je vous laisserai découvrir.
Mais on est des scouts, on a été entraînés pour ça.
Black Badge, c'est vraiment très intéressant puisqu'on part du postulat. Alors c'est Matt Kent qui le dit, c'était parti d'une vieille idée qui commençait comme une blague. Si on faisait les scouts pour de vrai, alors en les attribuant un petit peu les qualités de commando d'élite militaire, sauf que ce sont des enfants et qu'ils se font passer pour des scouts en toutes circonstances. Bon, faut savoir que on va se retrouver très très vite au cœur d'un complot, au cœur de machinations qui vont avoir des enjeux beaucoup plus importants que le groupe d'enfants que l'on va suivre. C'est assez glaçant d'imaginer que c'est quelque chose qui peut être fait. Bon, là effectivement, il y a un côté humour un peu froid, puisque c'est pas de la blague à proprement parler. On est vraiment sur quelque chose de plutôt sérieux au global, mais avec un petit ton d'autodérision parfois qui va faire que les séquences ne sont pas glauques. On va rencontrer des groupes de scouts qu'on n'aurait jamais imaginé. Je vous laisserai les découvrir parce que c'est vraiment hyper intéressant et vraiment bien fait. Et puis il y a une espèce de machination, de complot qui fait que ce que font les Black Badges n'est peut-être pas effectivement ce qu'ils voulaient, avec cette espèce de petite guéguerre entre groupes de scouts différents, Scouts sans frontières, les Black Badges, enfin les scouts, comme on peut avoir un petit peu nous dans nos régions avec les scouts de France et les scouts d'Europe qui se tirent un petit peu la bourre, si j'ai bien compris. Et c'est vraiment bien sympa, on accroche en fait à ces personnages. On va les apprendre à découvrir un petit peu leur passé, puisqu'ils ont chacun un background qui est globalement plutôt travaillé, alors sans être mis au premier plan, mais vraiment quelque chose d'assez agréable. Et puis on a ce dessin qui est détaillé effrayé, mais garde un peu de... Je sais pas comment l'expliquer. Les visages ont du détail, mais c'est une espèce de flou qui fait que on les voit, mais on peut pas donner de détails précis sur ce visage, qui est certainement dû au jeu de couleurs, qui est vraiment assez agréable. On a des choses qui sont vraiment intéressantes. C'est un roman graphique qui est plutôt dense, et c'est une porte ouverte à plein d'imagination, parce qu'on peut recréer des groupes comme ça, hors cadre, hors machination, que tu peux envoyer à des dans des missions suicides, dans des missions que personne n'oserait faire, et ce qui fait que c'est vraiment vraiment très très intéressant, c'est vraiment très agréable à lire, et c'est un gros volume, hein. Je sais pas, il doit peser son bon kilo et demi, vraiment on se laisse emporter, ça se lit extrêmement vite, le chapitrage est plutôt bien découpé, et c'est vraiment intéressant. Chaque scout a ses petits secrets, chaque équipe va arriver à... parce qu'il y a d'autres équipes de scouts, hein, et vraiment ce sont il y a des enjeux qui se mettent en place, il y a des missions qui se mettent en place, il y a des petits secrets à des moments où même le lecteur n'est pas mis dans la confidence, on voit des choses qui se passent, on ne les comprend pas, elles nous sont expliquées par la suite, et c'est vraiment vraiment bien ficelé, vraiment bien intéressant, c'est un bon moment, une belle pépite à lire, que je vous invite d'ailleurs à découvrir. Black Badge, c'est de Matt Kint, qui avait déjà fait Grass Kings, je crois, déjà avec Taylor Jenkins et Hilary Jenkins, et c'est vraiment très sympa, n'hésitez pas à y aller. Jordan, Black Badge, c'est aussi sur Futuropolis, et c'est vraiment super cool.
Faites confiance aux scouts.
Je vous propose qu'on se fasse une dernière pause musicale avec Grand Corps Malade et Suzanne, et la chanson Pendant 24 heures.
Bienvenue en vue de l'intérieur, vivre cette chance pendant 24 heures. Ultime nuance, vue de l'intérieur, vivre cette chance pendant 24.
J'enverrai un mail au taf en faisant les courses à Carrefour. J'aiderai les enfants au devoir en sortant la quiche du four. Avec eux je serai joyeuse, avec mon mec femme fatale. 24 heures dans la peau d'une femme, je comprendrai la charge mentale. À 16h35 pile, j'arrêterai de travailler. Vu qu'après quand t'as une femme, eh ben t'es plus payé. Je sortirai en jupe quelques instants dans les transports pour comprendre l'essence même du hashtag balance ton port.
Excuse-moi.
Eh mais tu veux quoi là? Putain, casse les couilles.
Excuse-moi.
Je boirai du whisky pour me mettre à l'aise. Sans coca, sans glaçon, comme les mecs balèzes. J'irai draguer une fille, mais y'aura pas de malaise. J'enverrai pas texto qui dit c'est quand qu'on baise. Je serai romantique avec les meufs sur Tinder. Pas de dick pic, des cœurs de toutes les couleurs. J'irai marcher la nuit, je prendrai pas de Uber. Si je croise un autre mec, plus besoin d'avoir peur.
Mais je veux aussi kiffer, connaître enfin leur vrai pouvoir. Critiquer les gens avec mes copines du matin au soir. Et dès qu'elles sont parties, les critiquer elles aussi. Fanny est vraiment chiante, Solène elle a grossi. Je veux découvrir enfin le singulier bonheur de réussir à faire un créneau en une demi-heure. Comprendre enfin la passion sincère, sans censure, de regarder sur internet pendant des heures des chaussures.
Un peu lourd, pour qu'ils comprennent enfin que c'est pas très glamour. Je pourrais prendre tout mon temps, pas d'horloge biologique. Si je veux pas d'enfant, personne n'en fera tout un cirque.
Je testerai tout de suite ces petites galères au féminin. L'épilation, le maquillage, perdre ses clés dans le sac à main. Les talons hauts, le vernis à ongles, les rappels mensuels du corps. D'être une femme, je veux découvrir l'enfer du décor.
Je pourrais ne plus me raser, personne dira que c'est dégueu. J'aurais plus mal au ventre, à gna gna de mes deux. Je dirais bonjour patron sans qu'il me dévore des yeux. L'augmentation sans dîner amoureux. Devant ma PS4 pendant que ma meuf se plie en quatre. Je mettrai pas la table, c'est pas la fin du match. Je pisserai sur le trottoir comme le petit chien de la voisine. C'est l'avantage de la physiologie masculine.
Ultime nuance, vue de l'intérieur. Vivre cette
www.radio-g.fr.
C'était Grand Corps Malade et Suzanne sur le 101.5 de Radio G avec la chanson 24 heures. Vous êtes toujours en compagnie de Seb, c'est les cases de Seb et on vous parle encore de bande dessinée. Je vais continuer avec une double chronique avec Daybreak de Brian Ralph et une petite chronique rapide sur la série Netflix qui est tirée de cet album qui est publié aux éditions Delcourt. Alors c'est pas récent que ce soit la série ou le comics. La série elle a dû sortir en novembre 2019, donc ça fait presque un an, et le comics est sorti en janvier de cette année aux éditions Delcourt. Ce qui est super intéressant, c'est que c'est très facilement lisible. Il n'y a pas beaucoup de texte, on est sur des couleurs, les pages sont légèrement crème et on est sur des teintes qui sont pas du noir mais plus du marron, un marron bien foncé au niveau du dessin. On a un dessin qui est plutôt, qui fait un peu enfantin, un peu cartoon. Si j'ai bien suivi, Brian Ralph est professeur de bande dessinée à Savannah, au collège d'art et de design, et il avait décidé d'essayer d'expérimenter quelque chose, et c'est plutôt réussi puisque le lecteur se retrouve complètement projeté à l'intérieur du récit. Le personnage principal nous interpelle directement. On commence directement dans le feu de l'action puisque il y a quelqu'un, un jeune homme avec une sacoche, les vêtements débraillés et un bras visiblement en moins puisqu'il a un moignon dans un pansement, qui nous interpelle, qui nous dit bonjour, ah, il va bientôt faire sombre, venez avec moi, on s'enfuit. Et du coup on est intégré complètement dans l'album. Le protagoniste nous interpelle, on va se retrouver à faire certaines choses. Bon, on les regarde faire puisque c'est pas vraiment le lecteur qui le fait, mais on est considéré comme un personnage à part entière de cet album, ce qui rend la chose extrêmement immersive. Ça se lit assez vite puisqu'on est sur un gaufrier de 6 cases par page, mais ça passe vraiment bien, c'est hyper agréable. Il se passe pas mal de choses, on est dans un monde post-apocalyptique, visiblement avec des zombies, mais qui sont plutôt masqués dans un premier temps. On voit pas vraiment grand chose et du coup c'est hyper intéressant, c'est vraiment immersif, je vois pas comment dire de plus, parce que c'est vraiment ce côté là le plus intéressant. Enfin, c'est vraiment le côté qui ressort en premier, c'est cette espèce d'immersion, le fait que le lecteur soit complètement intégré. Il se passe pas une case sans qu'on ne fasse partie en fait de l'album et de l'histoire, ce qui rend les choses vraiment très intéressantes jusqu'à la toute fin. On est partie prenante du récit et on sent que Brian Ralph, effectivement, il est prof de dessin, hein, mais prof de bande dessinée pour être exact, mais il a une façon d'expérimenter la narration qui fait que ça marche extrêmement bien et qu'on a vraiment envie de continuer et de s'en sortir, hein, puisque mine de rien, le danger, parce qu'on est intégré dans cette narration, on ressent aussi les dangers que peuvent subir les protagonistes du bouquin, et c'est vraiment, vraiment super agréable. Alors quand j'ai vu le gros logo dessus, une série originale Netflix, je me suis dit bon allez on va voir. J'avais un petit peu peur parce que je me suis dit tiens, on m'avait parlé de Daybreak et on m'a dit tiens, tu vas voir, c'est une série de zombies un peu ado, et je me suis dit mais qu'est-ce que je vais regarder, si ça se trouve je vais regarder un épisode et puis ça va pas me plaire. Et avant de vous en parler plus amplement, je vous laisse avec la bande-annonce. Vous allez voir, je l'ai un peu raccourci, je l'ai un peu bidouillé, mais vous allez voir, ça devrait vous donner envie.
C'est moi, Josh. Il m'arrive une histoire de dingue. Ça, de combat, de souffrance.
Josh, voici Sam.
Du grand amour.
T'es dur à cerner, Josh Wheeler. Et les défis, j'adore ça.
Bref, on en était là. C'est comment la vie après l'apocalypse ? Extra. Vu qu'il n'y a plus aucun adulte, beaucoup d'adultes sont devenus un genre de ghoul sans cerner. C'est un nouveau monde, et je suis plus à ma place dans celui-là. Il y a genre des athlètes idiots, les intellos,
Les pom-pom girls.
Mais en fait, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu.
Mais l'important, c'est pas d'avoir des trucs cool, c'est de montrer que tu peux être cool. On est libre. Y'a rien qui nous soit interdit.
C'est comment la vie après l'apocalypse? C'est jamais trop à quoi s'attendre.
Alors la particularité, et c'est là un petit peu la ressemblance avec la BD, donc c'est que c'est une série post-apocalyptique avec des ados, même si on n'est pas vraiment capable de donner un âge en fait au personnage de la série, vu que le dessin a un style plutôt enfantin, mais le personnage principal s'adresse directement au spectateur. Alors si parfois on a l'impression de participer à l'action, on est plutôt dans la position du spectateur, alors que dans la BD, dans le comics, on est partie prenante de l'action, on est acteur. C'est là où, à mon avis, il y a une grosse différence. Et il y a cette tonalité un petit peu décalée qui fait que y a cet héritage qui se crée. Parce que, de mon humble avis, hormis les zombies, le post-apo et puis le cassage de quatrième mur, les deux œuvres sont complètement différentes. Alors, on se laisse bien emporter par Daybreak la série, puisque les personnages sont bien creusés, y a des backgrounds qui sont travaillés, même si les personnages sont caricaturaux au départ, certains épisodes nous montrent que ça va un peu plus loin que ça, et c'est là où tu vois que le sel d'une série est intéressant, c'est quand on arrive à te surprendre sur des choses que tu pensais complètement archétypales, et ça marche bien, c'est fun. On n'a pas besoin de s'embêter à utiliser trop son cerveau. Il y a plein de choses intéressantes. C'est une série que vous pouvez regarder, binge-watcher si vous voulez. Je ne me rappelle plus, il y a une dizaine d'épisodes. Malheureusement, malgré son succès, Netflix a choisi de ne pas renouveler la série pour une deuxième saison. Mais allez-y, ne boudez pas votre plaisir. Et puis surtout, prenez le temps de lire aussi Daybreak de Brian Ralph. Parce que vraiment, c'est hyper intéressant. Le comics vaut vraiment le coup pour cette immersion dans le récit que j'ai, pour ma part, jamais vu ailleurs. Je redonne les références. Alors Daybreak, la série Netflix, et Daybreak de Brian Ralph aux éditions Delcourt. That's all, folks. Vous venez de l'entendre, c'est pour qui, ça signifie que l'émission touche à sa fin. On se retrouve non pas la semaine prochaine comme d'habitude, mais dans 15 jours pour une nouvelle émission qui ne sera bien entendu plus en direct. N'hésitez pas à essayer d'échanger avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, la case de Seb. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent. Bonne soirée à tous.
urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Radio G 101.5 FM.